Muziek de Mone. Laurent Alois. Cyril Etienne.
Hugo Violas.
Velkommen til Norge og til Førdefestivalen.
Et la balade norvégienne poursuit sa route, enfin son fjord. La petite ville de Førde, 12 000 habitants, à 50 minutes d'avion d'Oslo, invite des musiciens du monde entier pour son festival, le Førdefestivalen, créé en 1990 par Hilde Bjørkum. Avec un public fidèle d'environ 25 000 personnes sur 4 jours, essentiellement norvégiens et quelques touristes égarés comme nous, le festival a accueilli cette année 251 artistes, 71 concerts dans 30 lieux différents. Nos invités du jour, Divina pour l'Ukraine, Atin, Iran, Palestine, France, Sona Jobarté, Gambie, enfin je devrais dire plutôt Anglo-Gambie, et le duo Léa Kitt entre danse et trance chamanique, c'est les Samis du nord de la Norvège, il y en a dans le sud aussi, avec Cerise sur le cake, Errol Josué, from Haïti. Comme le thème de cette édition était la musique en temps de crise, trois formations ukrainiennes ont fait l'ouverture, Marina Sadovska, Divina et Drevo. Le thème de cette 32e édition du Festival de Førde était la musique en période de crise. Donc pour la soirée d'ouverture, trois formations ukrainiennes sont montées sur scène, ensemble. Marina Sadovska, chanteuse globe-trotteuse ukrainienne qui enseigne les techniques vocales dans des ateliers à travers le monde. Les trois jeunes femmes de Divina et Drevo, qui depuis 1979 remet les chants paysans ukrainiens sur le devant de la scène. Les artistes étaient très concentrés et le public était très conscient de ce qui se jouait sur scène. Plus tard, dans la nuit, nous avons croisé Svitlana, l'une des trois chanteuses de Divina. Elle est originaire de Donetsk. Elle a fui son pays au mois de mars et vit pour le moment en Allemagne. Comment dois-je prononcer votre nom ?
Svitlana Medvedeva.
Qu'est-ce que ça fait de jouer à Førde en Norvège, loin de tout ?
Vous savez, c'est toujours un peu pareil où qu'on joue. Juste qu'aujourd'hui, c'est plus dur pour nous car toutes nos pensées sont occupées par l'Ukraine. Les autres membres du groupe sont en Ukraine. Nous souffrons énormément en lisant les nouvelles. On a toujours peur d'ouvrir le fil d'actualité sur nos téléphones parce qu'on a peur de tomber sur une mauvaise nouvelle.
We are actually afraid to find some bad news, like, yeah, you know, because our relatives in Ukraine.
Les membres de nos familles sont en Ukraine, certains dans des zones occupées. On ne pense qu'à ça, qu'à eux.
But we're really happy.
Et en même temps, nous sommes heureuses de partager des chansons ukrainiennes, la culture ukrainienne, avec le public européen.
Giving a little comments before we singing.
On explique au public ce que l'on chante, d'où vient la chanson, et nous avons le sentiment profond de devoir dire aux Européens ce qu'est notre terre natale, qui on est et ce qui nous arrive.
C'est la nuit, mais il ne fait pas nuit. On vit dans ce fameux jour polaire. Nuit ou pas nuit, passé une certaine heure, tous les chanteurs sont gris. Malgré la violence de leur situation, Svitlana et ses deux collègues chantent dans le bar de l'hôtel avant d'aller se coucher car elles démarrent très tôt, le lendemain matin. La mélodie, au milieu des conversations et des bruits de verre qui trinquent, attire l'attention d'une autre chanteuse, iranienne celle-ci, Aida Nosrat, du groupe Atin.
«
Aïda Nosra, c'est aussi ce que ça veut dire de quitter son pays. Elle vient d'Iran, mais que voulez-vous, la vie circule avec l'air et le sang transportant l'oxygène, alors toutes nos cellules sont toutes à quai.
Alors, une scène norvégienne, c'est amusant.
Alors, bonjour.
Bonjour, Aïda Nosrat. Jouer en Norvège, c'est une première pour vous?
Oui. Et c'est la première fois que je joue ici. Je visite, en fait, pour la première fois, ce pays. J'adore.
Alors, hier soir, je vous ai surprise dans un bar, dans un hôtel, ouais. Et vous avez rencontré des artistes ukrainiennes, un trio de chanteuses. Qu'est-ce qui s'est passé?
Personnellement, j'adore le chant polyphonique, les différents pays. Hier soir, c'était très excitant pour moi, quand ils chantent comme live. Et après, je me suis dit que peut-être c'est possible, je fais improviser avec elle. Et oui, j'ai fait.
Qu'est-ce qui vous a surpris dans la manière de chanter des chanteuses ukrainiennes?
Actually, the sounding system, I think they use it.
C'est la technique vocale qu'elles utilisent, surtout dans les aigus, qui m'a frappée, car ça ressemble à ce qu'on fait en Iran. En tout cas, c'est très proche.
This is what we missing in our Iranian traditional music.
C'est ce qui nous manque dans la tradition iranienne, c'est l'harmonie dont est dotée la musique occidentale. J'ai vraiment aimé poser ma voix sur leur chant polyphonique. Ce que j'en ai perçu était magnifique.
I hear it in my head, very beautiful.
Atin en concert en Norvège au Fjord de Festivalen, juillet 2022. C'était Atin en concert en Norvège. Alors Atin, c'est un jeune groupe formé de 5 musiciennes iraniennes, palestiniennes et françaises. L'utilisation d'instruments traditionnels comme le tar, le kanoun ou la viole de gambe donne une couleur particulière à leur répertoire de poésie persane du 19e siècle. Bon, mais maintenant, on n'a plus qu'à présenter la famille.
Aïda Nosrat, chanteuse de groupe Atin.
Christine Zayed, joueuse de canon de groupe Atina.
Sogol Mirzaï, au tar.
Marie-Suzanne Deloy, à la viole de gambe.
Niloufar Monsani, the tombak player.
Sogol, Marie-Suzanne et Christine nous racontent Atine.
L'idée de Atine, c'est de vraiment être ensemble, parce que le mot Atine, c'est déjà un mot persan, ancien, qui veut dire réuni. Nous venons avec notre parcours individuel, personnel, nos couleurs, nos éléments musicaux, et on joue ensemble.
Nous avons vraiment choisi les chansons traditionnelles et les arrangements ont été faits par nous. Mais il y a deux compositions. Une composition qui a été faite par Christine Zayed, le titre « Last Sunset », et aussi une composition de moi-même qui s'appelle « Retour avec un S ». C'est une pièce instrumentale qui est dédiée à tous les retours, à tous les non-retours. Retour à la source, retour aux origines, retour vers soi-même. Donc l'idée, c'est ça.
La pièce étrange du groupe, c'est la vielle de gambe. Elle s'appelle Marie-Suzanne. Marie-Suzanne, racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Oui, c'est pas du tout un instrument traditionnel iranien. Mais petit à petit, ça, j'y travaille. J'y travaille parce que ces demoiselles, collègues, acolytes, m'ont fait rajouter des frettes pour pouvoir jouer des quarts de ton. Donc voilà, j'essaie de m'acclimater tant bien que mal.
L'idée initiale, c'était vraiment de réarranger les chansons traditionnelles qui sont moins connues dans cette tradition. Donc on les a réarrangées. Comme Christine a expliqué tout au début, nous avons chacune apporté notre bagage, notre expérience de musique. Mais je ne peux pas dire que c'est une nouvelle vague parce que nous ne sommes pas les premiers. Je pense qu'on cherche, on est toujours à la recherche parce que c'est un ensemble qui est assez récent. Nous sommes à la recherche de trouver notre langage. J'espère qu'on va pouvoir trouver le chemin et continuer. Voilà.
Et c'est au tour de la rumba congolaise de Dizzy Manjeku de monter sur scène. On sait vivre à faire de vivre et danser avec le titre Pesa Position Nayo de Franco.
Musique du monde.
Welcome to Norge og til Førdefestivalen.
On reste en Afrique avec une musicienne qui apparaît en duo sur l'album Juru de Balaké Sissoko, c'est Sona Jobarté. Sona Jobarté est une instrumentiste anglo-gambienne de tradition griotte. Elle a fait monter Sanjali Jobarté sur scène en Norvège, c'est son papa, pour le remercier parce que sans lui, point de suspension, et le public norvégien les a ovationnés. Elle est la première femme à jouer de la kora en professionnel et c'est au café Cardamone, au bord de la rivière à Førde, que le rendez-vous est pris. Échange, question contre réponse, deal, deal. Sona Jobarté, la dernière fois que j'ai entendu parler de vous, c'était pour votre participation à l'album de Balaké Sissoko, dont on vient d'écouter un extrait. Est-ce que c'est votre modèle ? Est-ce que c'est votre dieu vivant de la kora malienne ?
God, there's one God.
Il n'existe qu'un seul Dieu. Cela étant dit, c'est vrai que Balaké est un modèle pour moi et c'est une source d'inspiration. Il est de la génération qui me précède et il est un exemple pour tous les musiciens de ma génération, je veux dire en tant qu'instrumentiste. Alors évidemment, avoir la chance de jouer avec la personne qui vous fascine, c'est un très grand moment. Sona Jobarté, comment avez-vous réussi à rentrer dans ce monde d'hommes, à vous imposer comme musicienne ? Je ne suis pas entrée dans ce monde. J'étais déjà dedans parce que je suis née dans une famille de griots. Très jeune, j'ai appris les bases de cet instrument. La question de la pertinence s'est posée lorsque j'ai décidé de jouer de la kora et d'en faire mon métier.
You know, I had some basic knowledge of the instrument when I was young, but the turning point for me was when I decided now this is going to be my profession. This is going to be something that.
Et c'est le genre de décision que vous prenez en essayant de vous rendre compte du chemin qu'il y a à parcourir parce qu'aucune femme ne l'a fait avant vous et vous ne savez pas si ça va marcher. D'une certaine manière, il faut croire en son destin et être très déterminé. Moi, j'y croyais, j'étais déterminée. Il fallait que ça marche quoi qu'il arrive. Et je n'ai jamais abandonné malgré les difficultés dont nous faisons tous l'expérience et qui parfois peuvent vous décourager. Mais j'étais très déterminée à poursuivre ma carrière. Sona Jabarté, vous semblez être une femme très occupée. En 2015, vous avez créé une académie en Gambie. Quelle était votre idée de départ ? Alors la question c'est, quel est le but de cette académie ? Alors déjà dans un premier temps, je vous dirais que tout le monde peut venir étudier à l'académie, homme ou femme. On n'a même pas besoin d'être gambien, c'est ouvert à toutes les nationalités. La seule restriction pour le moment, c'est l'âge. On prend les enfants à partir de 8 ans jusqu'à 19 pour des questions pratiques. Le but principal de cette école, c'est d'apporter un nouveau modèle d'éducation en Afrique. C'est ce que je fais en Gambie, mais j'aimerais que ce modèle se décline sur le continent africain. Ça peut s'appliquer ailleurs. Ces autres pays ont les mêmes besoins que la Gambie. Je crois que la priorité, c'est l'enseignement, l'éducation. Sona Jabarté, qu'est-ce que ça vous apporte, cette académie ? Quel est le rapport que vous entretenez avec l'élève et l'élève avec son professeur ? C'est un processus qui va dans les deux sens. Je pense que c'est ce qui doit se passer si on est un professeur digne de ce nom. L'étudiant te fait bouger, tu fais bouger l'étudiant. C'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté. Quand les élèves suivent des cours à l'académie, ils vivent une période de transformation. Ils apprennent à regarder les choses d'un autre point de vue qui les remette à leur juste place, ni trop, ni trop bas, et qui les recentre sur l'essentiel. Ils apprennent à avoir confiance en eux. Le retour que me font les visiteurs après qu'ils aient assisté à une représentation des étudiants est sensiblement le même. Ils sont stupéfaits par le niveau de confiance des élèves. Alors confiants, pas dans le sens arrogant, mais plutôt dans le sens à l'aise. Et heureux d'être ce qu'ils sont et heureux de faire ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche, ça se sent, c'est puissant. On n'imagine même pas qu'avant de suivre des cours à l'académie, ces jeunes gens ne savaient ni danser, ni chanter, ni faire de la musique. Et ils n'étaient même pas issus d'une famille de griots. Ils relèvent un double défi. Moi, je n'avais qu'un seul défi à relever. J'étais une femme, mais née dans une famille de griots. La plupart de mes étudiantes n'ont pas cette opportunité. Pareil pour les hommes qui ne sont pas nés dans une famille de griots. J'essaye de faire bouger les lignes, de faire évoluer les mentalités dans mon pays. Les traditions, c'est bien, tant que ça ne dessert pas le développement d'une société. La raison, c'est qu'à l'époque, la tradition ne voulait pas de femmes instrumentistes, c'est tout. La société a envie d'autre chose aujourd'hui. Et si on veut être fort et ne pas rester sur le bord de la route, on doit négocier ce virage. C'était le titre Gambia interprété par Sona Jobarté, qui est l'une de nos invitées aujourd'hui dans les musiques du monde dans cette spéciale Norvège au Førde Festivalen. Alors Sona, vous n'avez pas fait d'album depuis une dizaine d'années maintenant. Ça n'est peut-être pas une priorité pour vous aujourd'hui? Faire un album, c'est très important pour moi parce que c'est la seule chose que je laisserai derrière moi. J'ai mis beaucoup de temps à faire le premier, il est sorti en 2011 et un an plus tard, en 2012, je travaillais déjà sur le deuxième. Bon, c'est vrai, ça fait 10 ans que j'ai rien sorti, mais il s'est passé tellement de trucs, et notamment la création de l'Académie en 2015, ce qui a repoussé la sortie de ce disque. Il devrait terminer dans les semaines qui viennent, je pense. Alors, sur scène, évidemment, vous jouez à la cora, vous chantez, vous faites aussi de la guitare. Il me semble que vous avez étudié le violoncelle. Vous pratiquez toujours ? Non, pas tellement. Mais sur le prochain album, j'en joue sur un titre. Il faudrait quand même que je pratique un petit peu plus l'instrument. Sona Jobarté, les musiciens ont montré que la cora, qui est quand même l'instrument symbole de la culture mandingue chez les griots, était soluble dans d'autres traditions comme le classique occidental, le flamenco. À votre avis, c'est dû à quoi? Quelle est votre explication? Il y a deux choses à votre question. D'abord, l'instrument lui-même, qui s'adapte bien aux autres cultures. En Europe, vous appelez ça une harpe, par exemple. Et l'instrument possède un nombre conséquent de notes, ce qui donne une vraie flexibilité, presque comme un piano, en fait. Voilà, ça, c'est du point de vue de l'instrument. À un autre niveau, vous avez le musicien. Nous avons la chance d'avoir des instrumentistes célèbres qui nous ont montré comment jouer avec d'autres traditions, comment s'adapter, mais tous les musiciens n'en sont pas capables. Sona Jobarté, est-ce que vous avez déjà essayé, tenté d'électrifier votre cora pour la rendre plus moderne? En même temps, qu'est-ce que ça veut dire être moderne? Bon, d'abord, je ne crois pas à la modernisation. Chaque génération doit interpréter la tradition à sa façon. Mon grand-père était moderne à son époque. Mon père était moderne à son époque, mais aujourd'hui on dit qu'ils sont traditionnels. Moi aujourd'hui je suis moderne, mais la prochaine génération me verra comme une traditionnelle. La modernité est relative, subjective. Moderne signifie juste que l'on garde la tradition vivante en effectuant les changements dont on a besoin. Je joue toujours le style que l'on appelle mandingue, mais je dois m'adapter à un public plus nombreux. Quand on est sur scène, enfin je veux dire, quand on n'est pas dans une salle à manger, à jouer de la cora acoustique pour quelques personnes, donc quand on est sur scène, il y a des milliers de personnes et là on est obligé de mettre un micro, d'électrifier le groupe. C'est typiquement le genre de changement qu'on doit faire pour garder la tradition vivante. Donc la réponse à votre question c'est oui, mais non. Ça va être pratique. Quel sera le titre du prochain album? Oh, j'en sais rien, c'est ce que je fais en dernier ça. Titre du premier morceau, peut-être? Ah ben ça, je ne sais pas non plus, non? Vous ne savez rien.
C'est ça,
je ne sais rien.
That's why we like you.
Yes. Thank you so much.
Merci, au revoir.
Thank you.
Et maintenant, bienvenue chez les chamans de l'Arctique. Thank you. Au festival de Feu 2, nous avons assisté à une représentation fascinante d'un duo, Léa Kitt, composée du danseur et chorégraphe Algrim Ansgard et du musicien Sami et chanteur de Yoik. Alors, le Yoik, c'est le chant traditionnel des Sami qui sont les premiers habitants de l'Europe du Nord et qui s'appelle Torgeir Vassvik. Comment vous dites déjà ?
Algrim Ansgard.
Torgeir Vassvik.
Torgeir Vassvik, vous utilisez différents instruments dans votre musique. Il y a la guitare, le tambour d'appel qui rappelle la Sibérie et les Premières Nations amérindiennes, le bol tibétain, le rombe. Alors ça, c'est formé d'une lame de bois que l'on fait ronfler par rotation rapide au bout d'une cordelette. Ça fait un bruit assez étrange, comme du vent ou le cri des dieux, diront les réveillés. C'est assez océanien. À l'origine, le yoik était un chant a cappella. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Traditionnel, c'est la musique est yoik, c'est a cappella.
Au début, le yoik, la culture sami, c'est un a cappella, il n'y avait pas d'instrument. Ça, c'est assez récent. En effet, le premier disque qui a été sorti avec yoik, soutenu par instrument, c'était en 68. Et c'est l'artiste qui choisit quel instrument, comment il veut développer sa voix, son expression. C'est un peu l'esthétique de l'artiste qui décide un peu comment ça va se développer. C'est ce que j'ai fait moi, avec plaisir. J'ai pris les instruments que j'aime bien et c'est comme ça que j'ai développé ma musique.
Ja, trekt in elementer som är familiärt med mig.
Alors, on parle de spectacle de trance, il y a quand même une dimension spirituelle, bien que ce soit une performance. Jusqu'où les deux acteurs ici présents, acteurs, musiciens, acteurs, danseurs, vont dans leur jeu. Quand il se met à danser, quand il se met à tourner, moi, il me fait penser au derviche tourneur. Est-ce qu'il est dans un état de conscience un peu modifié ou il fait son job ?
Pour moi, ça, helt siden jeg var ung tenåring, så har liksom det å oppleve.
Tout jeune, ça lui intéressait toujours cette idée de ces expériences hors de soi-même un peu. Et ça lui arrive quand même sur scène d'avoir une sorte de transe et il cherche ça et il travaille aussi dans les pratiques qu'il fait en tant que danseur et il cherche aussi cette émotion. Ouais. Il sort un peu de lui-même. Et avec Torgeir, ça lui est arrivé plusieurs fois. C'est quelque chose d'assez réel.
Dans mon propre praxis, où on peut aller encore plus vers les transcendantes expériences.
Algrim, je suis allée sur le site de votre compagnie de danse Frécard et j'ai vu des photos de vous en train d'évoluer sur des rochers, dans la nature, au bord de l'eau. Vous vous rapprochez de votre ami Sami et des mystères de l'Arctique animé, si je ne me trompe. Mais de quoi est composée votre danse ? Où vont vos recherches ?
I løpet av pandemien så har jeg fått tid til å reise litt rundt med arkeologer i Norge og Sverige og studert helleristninger. Litt på jakt etter.
Pendant la pandémie, il a fait des études et il a voyagé en Norvège parce que je cherche l'origine de nos rituels, les danses, comment ça se faisait. Et il y avait des peintures rupestres montrant des transformations. Les gens se transformaient en animaux. Et ça, c'est très intéressant pour moi de vraiment trouver l'origine de nos rythmes. Parce que pendant 5000 ans, ça s'est développé. Il y avait le christianisme qui a interdit la danse et la musique. Et je me suis demandé comment ça a influencé le développement de nos rythmes, nos danses.
Il y a beaucoup de mouvements qui ont traditionnels våre har overlevd de forbud som kom ifra kyrkja, for eksempel. Men også.
Mais nos traditions, elles ont survécu les interdictions du christianisme et tout. Et dans Léa Kitt, on a voulu donner une scène pour les éléments dans la culture sami et la danse traditionnelle norvégienne.
I joiketraditionen som har vært å hysja litt på, da.
La danse que vous pratiquez, c'est un mélange de danse, Algrim. On a parlé de capoeira, il y a les danses traditionnelles norvégiennes qui portent un nom particulier.
Halling.
Halling, absolument. Et je sais qu'Algrim a vécu en Chine. Je voudrais qu'il me parle de cette partie-là de sa vie, parce que je pense que ça a une importance enfin, assez capitale dans sa manière de danser aujourd'hui.
Det var i 2011-2012.
C'était en 2012.
Norge hadde et veldig anspent forhold til Kina på den tiden.
À cette époque, la Chine et la Norvège avaient vraiment des rapports assez difficiles. Il n'y avait pas de rapport, donc j'ai voulu partir dans le monastère sans connaître la langue et juste être là et communiquer, oui, avec les gestes, et, oui.
Et il est resté dans quel monastère, dans quelle école de danse?
It was Huilongguan in Wudang.
En fait, je suis allée dans les monts Wudang. Là, il y a des monastères qui vous enseignent des mouvements qui sont assez ornementaux, qui sont beaucoup plus intérieurs.
Internal and ornamental movement quality, while Shaolin is much.
Les moines Shaolin, c'est plus dur, c'est plus brutal.
Vi var 4 måneder der, og så var det 2 måneder i Norge etterpå.
J'ai été pendant 4 mois et puis après, eux, ils sont venus en Norvège pour 2 mois.
Dorga Vasvik, votre chant, vos pratiques rappellent un peu le chamanisme sibérien. Vous avez une vision animiste du monde, c'est-à-dire que tout est connecté, tout est vivant, tous les choix que l'on fait ont des conséquences. Est-ce qu'à la manière des Gnawa du Maroc, votre chant est un chant guérisseur?
J'ai un peu d'expérience avec aller dans des endroits dans le cerveau, ou j'ai un peu d'animistique expérience.
Oui, j'ai de l'expérience avec l'animisme, oui.
For example, begge mine bestefedre var healere. De hadde kunnskap som kunne.
Mes deux grands-pères étaient les guérisseurs. Ils pratiquaient. Et ça m'arrive de temps en temps d'être aussi. L'animisme est vraiment le cœur dans la culture sami. C'est comme dans Sibir et les autres coins du monde où c'est la même chose. C'est vraiment l'animisme est vraiment important pour les samis, pour la culture.
Je voulais vous présenter Errol Josué. This is Torga, this is Algrim. Errol Josué est le directeur du Bureau national d'ethnologie de Port-au-Prince, en Haïti. Il est par ailleurs prêtre vaudou, chanteur et danseur. Il a sorti en 2021 l'album Pèlerinage. Entre Haïti et l'Arctique, le courant passe. Errol Josué, Algrim et Torga vous écoutent.
Déjà, je vais leur dire merci pour hier soir. C'est un très bon moment qu'on a passé en regardant, en vivant ce voyage. Je me suis beaucoup retrouvé dans cette performance, dans ces chansons, dans cette danse, pour moi, initiatique, qui est un parcours initiatique, tout un cheminement. Et c'est pour moi, dans la tradition vaudou, c'est toute cette marche dans la forêt sacrée pour se retrouver soi-même. C'est le symbole même de la création de l'humanité pour moi, avec ce feu qui commence la vie, ce feu de la vie, ce feu qui peut être un feu purificateur en même temps qui peut détruire également.
Et justement, pendant ce spectacle, si on devait, non pas faire un résumé, mais dire aux gens ce que vous avez voulu exprimer, est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est le rapport entre le monde des vivants et des morts?
Jeg synes det veldig viktig at folk får en opplevelse til at en kropp og lyd kan ta det med på noen reiser. Vanskelig å forklare.
Pour moi, j'aime montrer aux gens que le corps et les sons, les bruits peuvent te faire voyager un peu.
Errol Josué, qu'est-ce que vous avez reconnu dans leur travail qui vous est totalement familier dans le vôtre? Alors, la technique vocale, ce n'est pas la même?
Bon, ce n'est pas la même technique, mais en même temps, c'est la même vibration, l'énergie pour moi, et déjà. Et la façon dont ça sort, le son guttural qui vient du tréfonds et qui sort avec cette joie et cette souffrance, et puis ce côté très mystérieux. Et puis cette la façon dont lui, le danseur, il a manipulé les accessoires et son corps, ce rapport avec l'environnement, pour moi, c'est tout le symbole du cadeau de l'humanité, avec cette boue de bois qui interpelle beaucoup de gens pour moi qui c'est tout le symbole du maître grand bois dans la forêt sacrée d'Haïti. Surtout nous autres qui sont plus ou moins illuminés, moi j'aurais aimé leur poser des questions. Moi, en tant qu'initié vaudou, eux, dans le chamanisme à fond, et est-ce qu'ils pensent qu'ils font du sacré ou c'est juste de la scène qu'ils font pour eux?
Pour moi, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer aux gens qu'il faut laisser partir un peu tout ce qu'on a dans la tête et les pensées et tout, et vraiment sentir les choses avec le corps, parce que ça, c'est et la spiritualité, ça existe, de ne pas utiliser la tête, mais de faire un peu l'expérience avec le corps. Laisser partir l'intellect, le mental, oui, et s'ouvrir, ouvrir le cœur, ouvrir les... Oui. En Norvège, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui vont au spectacle que dans les églises, parce que dans les églises en Norvège, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc pour nous, je pense que c'est important d'avoir des spectacles où les gens peuvent sentir le spirituel et avoir les réactions un peu à l'intérieur de soi-même.
J'aimerais bien que ça marche comme ça en Haïti chez moi, que les gens ne veulent aller beaucoup plus dans le spectacle que dans les églises. J'aimerais que ça arrive franchement, parce que le spectacle devient un nouveau rituel. C'est un nouveau rituel, des new rituals, les magiciens de la scène qui confirment encore que la scène est un espace sacré, que la scène est aussi un temple.
C'était le titre Reine Soboa, extrait du dernier album d'Erole Josué qui s'appelle Pèlerinage. Notre balade avec deux ailes ou avec un seul aile en Norvège est terminée. On remercie Toril Falaide qui est la directrice de communication du festival et qui a assuré la traduction norvégien-français. Cyril Etienne pour toutes les vidéos que vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux et Hugo Violins pour la réalisation. Le festival de Förde vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ce sera la 27e semaine de 2023. Tout cela est très mystérieux. Mais si vous allez sur la page d'accueil de l'émission, vous aurez toutes les coordonnées des artistes et toutes les informations dont vous avez besoin. Bonne vie. Salut.